ici on travaille sur une image qui va donner une certaine force pour mobiliser. Et donc là on est dans un domaine que, donc je donnais l'exemple du jeune architecte qui a ce projet visionnaire, il le voit tellement, il le voit comme si ça existait. Un jour, il l'a tellement vu que ça existe. Donc l'imagination a créé la réalité. Et donc en vieillissant, comme gosse on a ça et puis on utilise beaucoup la volonté. Maintenant l'imagination doit être une imagination de quelqu'un qui a des racines, de quelqu'un qui est connecté. Et donc là, de nouveau, l'alchimie donne des repères très intéressants. Il distingue l'imagination fantastica. Donc là, ça vous amène dans le délire. Quelqu'un qui a une imagination comme ça fertile, de plus en plus fertile, en étant déconnecté de ses racines, de sa source, de son centre, eh bien, il part de plus en plus dans le fantasme et dans le délire. Et l'alchimie distingue l'imagination vera, l'imagination vraie, qui, elle, est une imagination de quelqu'un de relié, qui va faire bouger le contexte intérieur et le contexte extérieur pour amener l'image qu'il avait à se réaliser. Donc ici, on a l'habitude de se connecter. C'est pas de dire « je suis là et puis il y a une balle au garçon ». Je suis ici et donc je suis bien connecté. Et la balle que j'imagine, qui gonfle et qui se dégonfle, ben elle se crée. Parce que j'ai mes pieds sur terre, parce qu'il y a un souffle qui l'anime, il y a une image qui est là, qui supporte. Donc c'est une imagination créatrice, mais qui se développe dans le concret. C'est pas juste être là, je suis une balle, je me gonfle, je me dégonfle, etc. Et donc je vous ai parlé un tout petit peu d'une trilogie que j'ai bien aimée, donc Matrix. J'ai trouvé une thèse qui récemment reprenait les grandes étapes du Tai Chi Chuan, mises avec les grandes scènes du film Matrix. Donc quand il découvre le mouvement conscient, puis après quand il est complètement connecté à l'autre et qu'il bouge en même temps que lui, il est dans le plus haut niveau d'empathie et à un moment donné il rentre même à l'intérieur de l'autre. Et bien à un moment donné il voit défiler les codes et il voit au-delà de la lumière de l'information pour comprendre le code des codes, donc on dirait le Tao, le mode de fonctionnement des choses. Et donc tout ça est mis en image d'une façon, je trouve, particulièrement remarquable si on passe au-delà de l'aspect combat, futuriste, etc. Et donc là, à un moment donné, on a un itinéraire initiatique. Anderson devient Néo, l'homme à nouveau. Donc c'est un monde, un monde tyrannique où tout fonctionne avec des façons de faire qui ne sortent pas d'un aspect machinique. Et lui s'intéresse à sa voisine, il lui sort ses poubelles, il s'intéresse aux autres, il s'intéresse à lui-même. Donc c'est quelqu'un qui est déviant. Et parce qu'il est exclu, il devient l'élu à un autre niveau. Et donc dans cette quête et ce cheminement, on trouve différentes étapes. Et à un moment donné, dans le numéro 2, et à un moment donné, il se met à respirer. Et en respirant, les murs de sa chambre respirent avec lui. Et donc à ce moment-là, il s'accorde avec le temps et avec l'espace. Et en respirant, il respire avec l'univers. Donc, toutes ces étapes-là, donc, ça peut s'appeler conspiration, respirer ensemble aussi. Bon. Donc il y a tout ce travail de travailler l'imagination, et puis avec ce travail de l'imagination, eh bien, on est dans le fantasme, ou eh bien on parvient à faire bouger les choses et à faire bouger l'environnement parce qu'on a fait bouger notre propre espace intérieur.
On est donc dans ce travail de ma balle.
Et donc c'est le gros ballon de plage. Je peux le faire les yeux fermés ou les yeux entrouverts. Je le vois, je peux voir d'une couleur, je sens sa consistance, il existe, et c'est ce ballon qui, en se gonflant, pousse mes bras. Le ballon qui se dégonfle, mes bras suivent le ballon. Je respire avec ce ballon. L'imagination devient créatrice. C'est pas la volonté en me disant je vais encore en faire 10 et battre mon record. Je me détends. Et j'utilise la puissance de l'imaginaire. Et donc, quand j'utilise le corps entier et le souffle, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est que mes bras
sont comme des plumes, ils n'ont plus de poids. Et ça donne vraiment une sensation d'être très, très montagne en bas, et en haut, c'est les nuages, c'est flottant, c'est aérien. Et tous les mouvements vont se faire comme ça parce que la structure du corps supporte les bras et fait bouger les bras. Et les bras, eux, sont de plus en plus légers, comme des plumes. Alors, c'est une sensation qui est vraiment une sensation d'ancrage à l'intérieur, et en haut, vraiment léger, 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 léger. Et donc, ça me permet de travailler sur des sensations toutes fines. Donc, il est ici, qu'est-ce que je vois ? J'ai connecté mon centre à son centre, et je touche à peine pour faire bouger son centre avec mon centre. Et donc, on est là avec des forces, d'une légèreté, d'une subtilité, que je peux après sentir si j'ai senti ça. Si tant que je suis là, je ne peux pas exactement. C'est une question d'un dosage et d'une orientation qui est dans le sensitif. Je sens où il est, où mon centre est, et boum, je touche à peine. À peine. Et il sent à peine. Moins il sent, plus je vais pouvoir travailler comme de l'homéopathie avec des doses très subtiles, qui ne sont quasi dans l'inexistence. Pourquoi ? Parce que pendant toute ma forme, je travaille ici avec cette subtilité. Et c'est le reste qui va. Donc ici, je répète, l'exercice est artificiel, mais ça vous permettra, si vous faites comme je viens de le faire, de sentir pendant quelques secondes cette sensation d'extrême légèreté des bras qui bougent tout seuls. Donc au moins, vous l'aurez senti, et vous savez que c'est vers ça qu'il faut. Ici donc on a expérimenté de façon artificielle, je ne fais plus quelque chose sur ferme. Et donc pour moi c'est là la clé de la chi officielle. Et le tai chi est vraiment tout un travail pour amener ça. Donc à un moment donné, je ne fais plus le mouvement se fait avec moi. Je n'agis plus, je suis agi. Et donc quand on parle du non-agir, j'ai lu longtemps souvent des traductions. Des traductions. En ne faisant rien, il n'y a rien qui ne se passe.
Rien a déjà quelque chose, voilà. C'est pas vrai.
En français, si on va dans le dictionnaire historique de la langue française, Robert en a un beau dictionnaire historique, rien, ça vient d'un mot latin, à l'accusatif rem, qui veut dire res quelque chose. Donc même le mot rien, à l'origine, ça veut dire quelque chose. Mais donc quand on dit en ne faisant rien, il n'y a rien qui ne se fasse, beaucoup d'occidentaux ont mal compris. Donc c'était comme si c'était l'éloge d'une sorte de quiétisme, de fainéantisme, alors que ce n'est pas ça du tout. Il y a une traduction que j'aime bien, qui est « celui qui ne force rien peut tout ». Donc ce n'est pas l'idée de ne rien faire, c'est une idée de faire juste ce qu'il faut au moment où il faut. Et donc l'Occident a été marqué par ses héros. Et donc on a le culte du héros, les 12 travaux d'Hercule et tous les autres. C'était impossible à faire, mais on l'a quand même fait, avec des grands effets, avec des efforts. La sagesse, et la sagesse en Orient, en Extrême-Orient, c'est justement de réussir des choses qui ne laissent pas de traces, il n'y a pas de traces. Quelqu'un était dans une telle sensibilité, a juste fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, les choses se sont faites, mais on ne l'a pas vraiment vu. Et donc ça, c'est un autre niveau. Il n'y a plus besoin de la gloire, il n'y a plus besoin d'aller à contresens et de quand même dire « je vais le faire » alors que c'est impossible à faire. C'est être à l'écoute du contexte, de la réalité, et avoir cette efficacité que François Julien appelle l'efficacité en creux. Donc c'est une efficacité pas avec un plus, mais avec, on a testé tantôt, la force de la soustraction, l'efficacité en creux. Et une autre de ces belles expressions, « suivre la propension des choses ». Voilà. Et donc à tout moment, j'épouse, je sens et je bouge à peine. Et je me replace chaque fois pour épouser et réorienter quand c'est nécessaire de réorienter, mais pas en allant en contre-courant. Et donc c'est vraiment ce type de perception. Le non-agir, quand, si on dit non-agir, c'est comme si l'action était niée. Ce qui est nié, ce n'est pas l'action, c'est la volonté, c'est le vouloir. Mais ça se fait et quelque chose agit en moi. Je suis agi. Donc c'est une forme passive. Et donc ici, c'est artificiel pour sentir. Alors ici, je vais demander à Georgette. Parce qu'en fait, je vous ai dit tantôt que le tai chi, c'était du yin
oui,
et le yang. Et donc, c'est la même chose avec mon maître en tai chi. J'ai travaillé avec Manhui
Feng Men, ça veut dire la porte. J'ai travaillé avec son épouse. Et donc, ils étaient tous les deux très très connus. Mais entre ce que lui fait, qui était un pédagogue extraordinaire, le Tai Chi, c'est des qualités féminines. Donc, une femme qui fait bien le Tai Chi, ça donne toujours plus. L'idée de Tai Chi, je demandais à Georgette de faire un petit morceau de Yang, peut-être un petit morceau de Chen, voilà. Et peut-être un morceau de Yang. Et donc ici, dans le yang, particulièrement celui qu'on a vu, elle va travailler très fort dans la détente, dans la légèreté, essayer de sentir chez elle ce que vous avez perçu ici. Dans son mouvement, sentir comment quelque chose de léger bouge en elle.